Par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M en ce 11 octobre 2016 pour vous présenter les paractualités, les titres aujourd'hui, du moins quelques-uns, que nous avons à vous proposer. Un gros plan sur les ressources intermédiaires, une entrevue avec Lise Roche, directrice accessibilité universelle en loisirs chez Altergo, pour tout savoir sur le speed dating du 20 octobre prochain. Les vélos pupitres font leur entrée dans deux écoles de Baie-Comeau. Une entrevue avec Lynn Rémillard, directrice adjointe et rédactrice en chef virage du réseau FADOC. Et puis consultation sur la bonification des prestations accordées aux élans, aux aidants naturels. C'était un papier d'Ariane Lacourcière dans la presse en fin de semaine. La ressource intermédiaire L'Orchidée 2 de Montréal, qui accueillait des personnes lourdement handicapées, a fermé ses portes en avril dernier parce que les usagers y étaient laissés à eux-mêmes. Un rapport troublant de la protectrice du citoyen laisse planer des doutes sur la qualité du processus de surveillance des ressources intermédiaires qui accueillent des clientèles parfois parmi les plus vulnérables du réseau de la santé. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec réclame elle-même plus d'encadrement, ajoutant que le financement actuel est inadéquat pour répondre aux besoins des usagers. Depuis mars 2015, l'Orchidée 2 était liée par contrat au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal. Dès la réception du signalement, la protectrice a alerté le CIUS qui a envoyé des représentants à l'Orchidée 2. Ceux-ci ont dressé une liste de constats dérangeants. Des employés ont notamment rapporté qu'un résident a dû attendre 20 minutes pour qu'on l'aide à se rhabiller après qu'il soit passé à la toilette et qu'une autre portait une robe de nuit souillée au moment du repas. On a noté la présence d'une ecchymose sur le visage d'un usager sans explication de la part de la propriétaire. Les représentants du CIUS ont également constaté que la ventilation ne fonctionnait pas dans l'édifice où la température atteignait 27 degrés Celsius. L'Orchidée 2 a donc finalement été fermée le 22 avril dernier. L'Orchidée 1 est quant à elle restée ouverte puisque la qualité des soins y était assurée. Qu'est-ce qu'une ressource intermédiaire? Une ressource intermédiaire, c'est une résidence privée qui signe un contrat avec un établissement de santé publique pour accueillir une clientèle. Les usagers qui y sont hébergés peuvent être des personnes âgées, en perte d'autonomie, des personnes souffrant de déficience intellectuelle ou de déficience physique. Quelques chiffres. Le nombre de ressources intermédiaires au Québec, 1258. Perte d'autonomie liée au vieillissement, 383. Personnes. Déficience physique, 52. On compte 1833 adultes, 211 enfants. Et c'est une clientèle, et la clientèle qui est desservie par les ressources intermédiaires en tout. On parle de 32 700 personnes. Ensemble, luttons, ils sont là pour vous aider. Déroutées, vulnérables, les femmes atteintes du cancer du sein ou en rémission de la maladie se sentent souvent laissées à elles-mêmes. Heureusement, dans la région, il existe des ressources leur permettant d'être épaulées dans cette épreuve. On parle des régions autour de Montréal, par exemple. Et parmi ces ressources, on compte les ateliers thématiques offerts exclusivement aux femmes à l'hôpital Pierre-Legardeur, en collaboration avec le Centre de coordination des services régionaux du programme québécois de dépistage du cancer du sein. En tout, ce sont des 6 ateliers qui sont proposés sous forme de thérapie de groupe. Et puis, par ailleurs, il y a, entre autres, hein, l'atelier Belle et bien dans sa peau qui est offert aux femmes atteintes de cancer afin de les aider à se sentir mieux en retrouvant une apparence qui leur ressemble. Je vais vous donner un numéro de téléphone que vous pourrez retrouver sur notre site. Il s'agit du 454-6-5-4-75-25 et le poste 37-733, encore une fois, il sera plus simple encore de le retrouver sur le site internet de Canal M. Lise Roche est directrice accessibilité universelle en loisirs chez AlterGo et elle va nous parler d'un événement qui va avoir lieu le 20 octobre prochain, un speed dating en accessibilité universelle organisé par AlterGo. Bonjour Lise Roche.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Alors, qu'est-ce qu'un speed dating en accessibilité universelle d'abord?
Alors, ça vous fait sourire, hein, puis c'est bien, parce qu'il faut sourire des fois dans la vie, il faut aller vers des choses un peu folles.
Oui.
Alors, on reprend de façon, dans le cadre du travail, une activité qui est associée à la rencontre amoureuse, c'est-à-dire qu'on invite plein de personnes qui travaillent de près ou de loin à l'accessibilité universelle ou qu'on souhaiterait qu'ils travaillent. Et en 2 heures, on s'assure par une animation vraiment très simple, mais que tout le monde ait une occasion d'aller parler aux gens qui pourraient avoir un lien dans le travail, que ce soit parce qu'ils font un projet qui est très ressemblant ou parce qu'ils desservent la même clientèle ou parce que sur un même territoire ou le même type de recherche de fonds. Et on s'assure qu'ils se rencontrent et notre vœu, c'est que cette rencontre leur serve pendant les années à venir à soit démarrer des nouveaux projets, approfondir des sujets sur lesquels ils travaillent, faire des échanges de bons procédés, faire des échanges de clientèle, mais l'idée, c'est de faire avancer, de briser la solitude chez les professionnels. C'est pas compliqué. Comme en relation amoureuse.
Exactement. Et quelles sont les entreprises qui ont en innovation sociale qui seront aussi invitées là ici?
Bon, alors cela, c'est la première année qu'on fait, parce que c'est la troisième année qu'on le fait en accessibilité universelle.
Oui.
Les premières années, c'était des organismes en déficience intellectuelle qui l'organisaient beaucoup entre eux. Ils sont encore dans l'organisation. Là, il y a l'AMDI, Corporation L'Espoir et Parrainage Civique qui travaillent avec nous à l'organisation. Puis là, cette année, on s'est dit, c'est bon, il faut qu'on ouvre encore plus, qu'on aille chercher d'autres types d'intervenants pour que, justement, nos projets prennent une dimension plus large. Alors, on s'est tourné vers l'innovation sociale parce que dans le cadre de congrès, on a rencontré des gens puis on voyait vraiment une affinité. Alors là, on a quelques organismes là, qui se sont joints à nous. Essentiellement, on travaille avec Percolab qui va nous aider à travailler sur, en début de rencontre, là, mais la place que nous, on prend en innovation sociale. Et ensuite, au niveau de l'animation, mais sinon, on a des organismes là, comme Handicap Action Intégration, Yoga Partout, On Roule, qui se sont déjà inscrits. Puis on cherche à en rejoindre le plus grand nombre possible.
Qui peut participer à cet événement-là?
En fait, ce qu'on vit, c'est des gens qui sont dans des organismes, des organisations et qui travaillent dans la grande région de Montréal à l'accessibilité universelle. Alors, il y en a qui sont directement avec la clientèle, c'est-à-dire que dans des organismes là, qui offrent des services directement à la population. D'autres sont plus en inclusion. Je pense on a des gens des YMCA là, qui viennent. D'autres sont à un niveau décision, comme par exemple, on a des conseillers de l'OPHQ qui se joignent à nous cette année, des gens de la BANQ.
Oui.
Fait que c'est des gens de plus. En fait, plus il y a de gens de groupes différents, plus ça devient intéressant. Beaucoup de gens des municipalités qui viennent aussi pour rencontrer des nouveaux collaborateurs, des organismes qui font des activités. Et on a quelques personnes de médias, comme des gens de Canal M, qui viennent.
Mais oui.
Mais c'est une mine, en fait, pour les gens des médias, pour rencontrer des organismes à inviter là, par la suite à des émissions.
Ça se passe où?
Alors, on change de place à chaque année parce qu'on en profite pour visiter des lieux. Alors, cette année, on s'en va au Centre Gadebois, qui est dans le sud-ouest de Montréal, parce que le Centre Gadebois, si vous êtes jamais allé, c'est vraiment un milieu de vie. Alors, c'est un endroit où il y a une piscine, 2 arénas, des gymnases, des salles de danse, un grand hall pour faire de l'accueil, des événements. En tout cas, il y a vraiment tout. Vous pouvez entrer là le matin et en sortir le soir.
C'est vrai?
Oui.
Avez-vous l'adresse, madame?
Oh, mon Dieu.
Madame Roche, non, oui. Vous ne l'avez peut-être pas, si?
Non, mais attendez, j'ai...
Si ah non, non, bah, je voulais pas vous mettre dans l'embarras. C'est parce que comme je ne le connais pas, ce centre-là, je me dis qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres qui ne le connaissent pas. Mais j'imagine que si les gens font centre Gadebois, bon, sur Internet, ils vont trouver ça. Alors, regardez, ne vous fatiguez pas.
Vous l'avez. Je l'ai, je ne l'ai pas fatigué longtemps. Ah. 54-85, chemin de la Côte-Saint-Paul.
Chemin de la Côte-Saint-Paul, d'accord.
Oui. Alors, okay. C'est dans le sud-ouest de Montréal. Et ce qu'on veut, c'est qu'en amenant les gens, les représentants des organismes dans ce mm-hmm. lieu, qu'en plus de se rencontrer entre eux, mais qu'ils rencontrent un nouvel univers où ils pourraient aller faire des activités.
Bien sûr. Mais j'imagine que les années auparavant, il y a déjà eu quelques beaux mariages, quelques beaux partenariats, non?
Oui. Puis des fois, il y en a, c'est drôle. Hein? Avant même, on consomme avant la noce, mais des fois, il y a des rencontres qui se font même avant. L'an dernier, on a eu un bel exemple d'un monsieur qui m'a téléphoné et lui, il démarrait un club de course pour des personnes qui avaient une déficience auditive.
Oui.
Et il me dit, est-ce que ça vaut la peine de venir? Ben, j'ai dit, monsieur, je vais faire un appel particulièrement pour vous. Alors, j'ai écrit dans les organismes qui desservent les personnes qui ont une déficience auditive en disant, ben, il y aura ce monsieur qui veut vous rencontrer pour parler du club. Et finalement, quand il est arrivé, il y avait déjà, lui, une liste de partenaires potentiels. Ils avaient fait des demandes pour de la promotion et toutes ces personnes se sont rencontrées puis rapidement ont pu faire débloquer son projet de club de course.
Très sympathique. Oui. Autrement dit, eh bien, on recommande à tout le monde de venir assister à cette journée spéciale Speed Dating en accessibilité universelle organisée par Altergo ce jeudi, le jeudi de la semaine prochaine, oui. Le 20 octobre, au centre Gadebois. On va indiquer toutes les informations sur le site Internet. C'est du matin au soir?
Non, c'est dans l'après-midi.
C'est dans l'après-midi.
C'est un 2 heures intensif.
D'accord.
Au bout de 2 heures, on a fait le tour de tout le monde.
Donc, c'est quoi? C'est de 14 à 16? Ou...
13h30 à 16h30.
D'accord.
Et à 15h30, pardon. Et je tiens à souligner que cette activité est rendue possible grâce au soutien de Centraide du Grand Montréal.
D'accord.
Et ça va vraiment dans les cordes de Centraide, là, de cette idée de faire en sorte que les gens se rencontrent et travaillent le plus possible ensemble.
Oui. Eh bien, Lise Roche, vous êtes, je rappelle, directrice accessibilité universelle en loisirs chez Altergo. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Merci
de cette journée.
Merci
de rien.
À vous. Au revoir.
Nous serons là toujours. Salut. Les paractualités régionales maintenant. Journée de visibilité pour droits et recours en santé mentale, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. C'était hier et c'est un texte de Brigitte Dubé. Depuis plus de 20 ans, droits et recours, c'est le nom de cet organisme, aide la population à faire face aux conditions de vie qui peuvent altérer la santé mentale comme le stress, les mauvaises conditions de travail, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement, l'exclusion, la discrimination répétée, la violence, etc. Selon la directrice générale et fondatrice Annick Lepage, droits et recours est mal connu et plusieurs personnes qui auraient besoin de ces services hésitent à s'en prévaloir. Il y a plein de gens qui auraient besoin de nous et qui ne viennent pas parce que c'est écrit santé mentale sur notre porte. Annick Lepage, c'est elle qui a déclaré ceci et qui indique que le mandat de droits et recours est très large. Il consiste à accompagner les personnes qui veulent faire respecter leurs droits, que ce soit dans des causes reliées au logement, au travail, à la famille, à la protection de la jeunesse, aux accidents du travail. Et elle précise que les services sont accessibles à tous, comme quoi, voyez-vous, partout au Québec. On s'intéresse à la santé mentale et à la santé en général. Également en région, à Baie-Comeau, les vélos pupitres ont fait leur entrée aux écoles Richard de Chute aux Outardes et Sainte-Marie de Raguenau. C'est une première pour la commission scolaire de l'Estuaire, la CSE. C'est 11 vélos pupitres qui permettront d'aider les élèves à contrôler leur comportement et à s'autoréguler. Ils seront répartis dans les 2 écoles, soit un par classe, et un vélo demeurera à disposition de la CSE. La commission scolaire et l'équipe école, d'ailleurs, qui étaient très fiers de présenter leur projet. Et du côté des élèves, l'enthousiasme semblait au rendez-vous. J'aime ça, ça irait mieux pour les travaux, t'es plus concentré sur ton travail. Comme tantôt, j'écoutais la madame parler en même temps que je pédalais, affirme Jasmine Couillard, qui s'est dite déjà essoufflée au terme de la conférence de presse. Alors voilà pour le vélo pupitre, quand même vous préciser qu'ils ont beaucoup d'avantages, ils sont silencieux, ils peuvent s'ajuster à tous les niveaux, ils possèdent une table de travail inclinée, mais oui, ajustable aussi, une boîte métallique pour ranger les effets scolaires. Ils sont conçus pour des utilisateurs de plus de 6 ans et plus, et mesurant au moins 1,30 m. Le poids maximal, c'est 275 livres. Aujourd'hui, c'est Lynn Rémillard avec qui je vais maintenant m'entretenir. Lynn Rémillard qui représente l'organisme du jour à l'émission Les Paractualités. Autrement dit, Virage, hein, c'est bien ça, oui. Virage du réseau FADOC. Bonjour Madame Rémillard.
Bonjour.
Vous en êtes la directrice adjointe et la rédactrice en chef.
Oui, moi je suis directrice adjointe du réseau FADOC.
Du réseau FADOC,
mais
d'accord.
Mais je suis la rédactrice en chef du magazine Virage. Mais c'est tout dans la même boîte, alors il n'y a aucun problème.
Bon, fiou. Dites-moi, Madame Rémillard, qu'est-ce que la campagne du bouton argenté?
Bon, la campagne du bouton argenté a vu le jour il y a 3 ans. Suite à un contrat social, un manifeste qu'on a fait pour un contrat social, pour la société en général, que ce soit les personnes individuellement ou les entreprises, les organismes, et c'était pour la qualité de vie des personnes aînées d'aujourd'hui et de demain. Okay. C'est une prise de conscience qu'il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser aller les choses. On sait tout le monde que la population vieillit. Il y a plus de personnes âgées, mais il y a aussi, on vit plus longtemps, on vit plus âgés aussi.
Oui.
Alors, tout ça, c'est des enjeux bien importants. Alors, on avait mis en place le contrat social, mais vous savez, faire un contrat social, c'est un peu philosophique. Mmh. Et on a voulu, nous, faire quelque chose de plus concret pour sensibiliser la population. Et le bouton argenté, c'est comme notre outil qui rappelle aux gens, écoutez, au mois d'octobre, là, on se fait une campagne pour ne pas oublier la qualité de vie des aînés. Je pourrais résumer un peu ça.
Excusez-moi, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Le trou de scie.
Pardon?
Il y a un terme que j'ai pas compris. Vous avez dit c'est un peu le...
C'est l'outil.
Oui.
C'est l'outil qu'on a mis en place pour
d'accord.
Sensibiliser
excusez-moi.
Les gens.
Alors, j'avais vraiment pas compris.
Oh, peut-être que j'ai pas été assez,
Non, pas du tout, mais je me disais, là, il y a quelque chose, vous savez, je me suis dit, s'il y a quelque chose que j'ai pas compris, possiblement que nos auditeurs l'auront pas compris
non
plus.
C'est bien qu'on répète, et vous savez, le bouton, c'est le symbole, autrement dit, de notre contrat social, et je tiens à vous préciser qu'il y a 4 trous. Dans le bouton, qui sont les 4 trous de nos grands enjeux. Autrement dit, il y a la santé, il y a le sentiment d'appartenance, il y a la sécurité et il y a aussi le bien-être. Alors, c'est symbolique, c'est vraiment de dire, écoutez, on appuie la cause.
Ah, ça, c'est vraiment dans votre contrat social. Hein?
C'est
là qu'on retrouve tous ces points-là.
Exactement.
Est-ce qu'il contient autre chose, ce contrat social?
Bien, c'est-à-dire qu'à travers le contrat social, c'est entendu qu'on parle d'intergénération. Mm-hmm. Parce que ce qu'on veut surtout éviter, c'est qu'il y ait de la confrontation entre les jeunes et les aînés. C'est facile quand on cherche des sous, hein, quand le gouvernement doit mettre de l'argent quelque part. Nous, on a pour dire que c'est faut pas aller un contre l'autre. Je pense qu'ensemble, on est capable de travailler pour une province pour tous les âges, en tout cas.
Oui, eh bien, c'est excellent. Justement, moi, parlant d'âge, madame, qui a fixé la date de 50 ans? Parce que ça, il y a plein de gens à qui ça fait... Ben,
ça
leur fait drôle.
De dire ça, hein? Hein? Écoutez, la date de 50 ans, ça fait longtemps, ça fait peut-être 20, près de 25 ans qu'elle a été fixée à 50 ans.
Oui.
On se rapporte 25 ans déjà. C'était pas la même attitude, c'était pas les mêmes profils qu'aujourd'hui, les gens. Mm-hmm. Avant, c'était 55 ans. J'étais pas là quand ils ont décidé de diminuer à 50 ans, mais c'était une question de répondre plus adéquatement à la clientèle. Cependant, étant donné qu'on évolue, c'est certain que pour nous, ça fait 3 générations dans le même mouvement. C'est pour ça qu'on parle maintenant du réseau FADOC, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est accrocher Fédération de l'âge d'or aux 50 ans.
Mm-hmm.
Ça colle pas. On n'est pas là. On veut pas ça. Par contre, nous, dans notre discours, c'est qu'on parle plus de prévention avec les gens de 50 ans. On change le discours par rapport à qui on s'adresse. Je vais vous donner un exemple. Si on parle de résidence, c'est certain qu'on va parler plus aux 50 ans avec l'idée qu'ils ont peut-être des parents qui veulent aller en résidence. Tu sais, tandis que quand on parle aux gens de 80, ben on parle pour leur résidence, leur milieu de vie à eux. Alors, c'est la même chose en santé.
Oui,
les gens de 50 ans, on va leur dire, tu sais, attendez pas à 80 pour faire de l'exercice. Là,
mais non, c'est ça. Ouais.
Alors, il faut juste savoir comment s'adresser aux différentes générations qu'on a dans notre mouvement. Puis, vous savez, c'est toujours... Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut appuyer la cause.
Oui, c'est ça.
Fait qu'à 50 ans, on peut quand même être membre. Écoutez, le plus cher, je pense, c'est 30 $ par année. Là, c'est pas
non,
très dispendieux.
Non,
c'est
clair.
Nous, ce que ça fait, c'est qu'on est rendu à 478 000 membres. Alors, quand on s'adresse à des gouvernements, à des instances pour obtenir des choses, bien, notre force est encore plus grande.
Évidemment. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien pensé. Puis, je suis contente de votre réponse parce que je trouve qu'elle est très éclairante et ça va me donner, d'ailleurs, moi-même une réponse quand
des
on va me poser.
Hein?
Voilà, exactement. Comment peut-on participer concrètement?
Bon, pour se procurer le bouton argenté, il est distribué dans les pharmacies Uniprix.
Ah, OK.
Et chez Grèche et Scarce, parce que c'est un de nos partenaires.
D'accord.
Alors, vous pouvez l'avoir au coût de 2 $.
Ah, parfait.
Et il est là jusqu'à la fin du mois d'octobre.
OK, d'accord. Et puis, une dernière petite question par rapport justement à ceux que nous appelons nos aînés.
Oui.
En moyenne, on peut dire que la qualité de vie des aînés au Québec, est-ce que c'est...
C'est moyen.
C'est très moyen.
C'est moyen parce que lorsqu'on regarde là, les statistiques, malheureusement, je ne les ai pas avec moi, mais des gens qui reçoivent même juste le surplus au niveau fédéral, ça démontre qu'il n'y a pas beaucoup de revenus au Québec. Alors, moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'attention à porter.
Oui.
Et malheureusement, je vous dirais que présentement, on semble voir que les dirigeants ne vont pas dans cet esprit-là.
Ah non, hein?
On parle juste des frais accessoires, tu sais.
Oui,
la personne qui a un bon salaire, même si elle paye 100 $ pour quelque chose, là, ça ne touche pas nécessairement son train de vie. Mais la personne qui a juste le minimum, un 100 $ ça vient peut-être des fois enlever quelques bons fruits ou des choses au niveau qu'il faut qu'il coupe, en quelque part.
Oui.
C'est important.
C'est important, effectivement, Madame Rémillard. Rémillard, hein, directrice adjointe de la FADOC, mais qui venait nous parler ce matin de cette campagne du bouton argenté. Allez, si vous avez un petit 2 à dépenser, allez dans les pharmacies Uniprix. Allez, vous nous achetez ces petits boutons à 4 trous, 4 trous qui sont essentiels.
Oui,
essentiels,
c'est ça.
Hein, pour les personnes âgées qu'il ne faut pas oublier. Et on vient de le dire, pour la qualité de vie est finalement au Québec relativement moyenne.
C'est ça.
En 2016, c'est quand même dommage. Merci beaucoup, Madame Rémillard. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très prochainement sur nos ondes. Ça me fait plaisir. Au revoir.
Bonne journée.
Actualité canadienne, amélioration des prestations pour les aidants naturels. Ottawa consulte. Le gouvernement fédéral lance une autre consultation publique, cette fois pour le conseiller sur les changements promis aux prestations d'assurance-emploi. En campagne électorale, les libéraux ont annoncé qu'ils vont revoir les prestations des congés parentaux et de maternité, ainsi que l'élargissement de l'assurance-emploi aux proches aidants qui doivent soigner un membre de la famille. Jeudi, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a lancé des consultations en ligne jusqu'au 4 novembre. À partir de là, a déclaré le ministre Duclos, nous avons l'intention de progresser assez rapidement de manière à ce que dans le budget de 2017, nous soyons assez capables d'annoncer des améliorations en termes de souplesse et d'inclusion à notre régime d'assurance emploi. Mystérieux cas de sclérose en plaques à Ottawa. 3 nouvelles personnes se joignent à un groupe. Alors qu'il y a un mois, Radio-Canada se penchait sur 14 mystérieux cas de sclérose en plaques affectant des personnes qui ont grandi dans le même quartier d'Ottawa. Le petit groupe s'est rencontré jeudi après-midi pour faire le point sur leur situation et leur démarche. Depuis le reportage, 3 nouvelles personnes qui souffrent de la maladie se sont manifestées. Elles ont elles aussi habité dans le quartier Elmvale, Acre, Acres, je ne saurais vous dire, et je m'en excuse. Pure coïncidence ou véritable phénomène, Jacques Dutrisac a reçu de nombreux appels depuis le reportage de Radio-Canada Au début, on était 14, on est rendu à 17 et moi, je suis sûre qu'il y en a plus encore. Je ne serais pas surpris. Certains n'ont pas beaucoup d'espoir, comme Carole Beaulieu. D'après mon docteur, il n'y aura pas de recherches qui seront faites, explique-t-elle. J'aimerais qu'on fasse une recherche en chaîne une autre dame qui s'appelle Diane La Douceur, mais on se sent minimisé. La maladie s'est déclarée à l'âge adulte chez chacun d'entre eux. Diane, Carole et Jacques se demandent si leur environnement ne serait pas responsable de leur condition. Au Canada, 100 000 personnes sont touchées par la maladie, la sclérose en plaques, rappelons-le, ce qui représente le taux le plus élevé du monde selon la Société canadienne de cette maladie. Pour eux, c'est peut-être trop tard, comme ils le disent, mais l'espoir que les progrès de la médecine permettront de mieux connaître et combattre la maladie est toujours présent. C'était un reportage de Florence Nguéno. À l'international, laissez-moi vous parler de Lucas Wild, un YouTuber sourd qui fait du bruit. Il est sourd et il a un humour absolument détonnant. Son nom, c'est Lucas Wild. Lucas comme Lucas, L-U-C-A-S, Wild comme W-I-L-D. Il est alsacien, ce jeune homme, et il a fondé une chaîne YouTube pour contrer les idées reçues liées à son handicap. 11 conseils pour communiquer avec un sourd. Je déteste la famille Bélier. Trouver un mot en LSF sont autant de thèmes abordés par les vidéos créées par Lucas. D'ailleurs, pourquoi Lucas? Appelons-le Lucas. Des critiques, des conseils, des tutos sur sa chaîne YouTube intitulée « Monsieur Lucas Wild ». Ce jeune garçon de 22 ans, sourd de naissance, a su utiliser les outils de communication actuels pour lutter contre les stéréotypes auxquels il est régulièrement confronté. Et depuis un peu plus d'un an, il rassemble, il fait réagir toute une communauté de malentendants et d'entendants via ses enregistrements. Une manière de transcrire un quotidien commun pour les uns et de dévoiler le monde des sourds aux autres. Son objectif principal pour l'heure ? Sensibiliser tout un chacun à la surdité et permettre d'automatiser la mise en place des sous-titrages sur le net, à la télévision et au cinéma. En rafale maintenant, après les Jeux paralympiques, on a eu droit aux Jeux cybernétiques samedi dernier. Un exosquelette, soit un appareil qui permet à des paralysés de se tenir debout, a participé notamment samedi dernier, donc à Zurich, au Cibathlon 2016, une compétition sportive réservée aux athlètes avec handicap et équipée de matériel technologique. Ce dispositif d'assistance à la marche, conçu par le laboratoire de systèmes robotiques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et appelé TWIS, permet de se lever, de faire quelques pas, de changer de direction, de monter des marches, éviter un objet sur le sol et s'asseoir. À Zurich, l'appareil sera piloté par une femme, était piloté par une femme qui s'appelle Silke Pan, qui est une athlète de handbike et qui fait partie d'une équipe de l'équipe Polywalk EPFL. Le samedi 15 octobre prochain, donc samedi qui vient, se tiendra un gala reconnaissance pour fêter la victoire du mouvement Parents jusqu'au bout, que vous avez soutenu directement ou indirectement. L'événement se déroulera à Saint-Lazare dès 18h30. Un cocktail sera servi, suivi d'un repas 5 services et d'un spectacle. Et on y annoncera les nouveaux projets de Parents jusqu'au bout. Ainsi s'achève les paractualités. Merci à toute l'équipe, Anne-Laure et Jean-Sébastien. Merci à vous d'être là. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une bonne journée, qui vous dit à demain, 11h30.